sur la faculté de jouer, qui est une séance un peu particulière, mais au fur et à mesure que les semaines passent, on se rend compte que presque toutes les séances sont un peu particulières. On va simplement essayer de dire quelques mots de cette particularité et de ce sur quoi elle se détache. Donc le séminaire sur la faculté de jouer, et je ne vais pas du tout ici en redire la problématique d'ensemble. Bonjour, bienvenue. C'est étrange mais sympathique, rassurez-vous. Rentrez, bienvenue. Il y a des chaises, allez-y. Bon, pour l'instant, on va se déplacer tout à l'heure pour voir quelques images, mais pour l'instant, on se déplacera dans quelques instants. Voilà, alors, nous travaillons dans le cadre d'une invitation qui nous a été lancée par le tout nouvel institut de recherche et d'innovation qu'a créé et qu'anime au Centre Pompidou Bernard Stiegler. Cet institut de recherche et d'innovation, de création toute récente, création dont il a pris l'initiative, et d'ailleurs je saisis cette occasion pour indiquer à vous tous de sa part, et d'ailleurs particulièrement à nos invités, qu'il s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais nous sommes en période de vacances scolaires, en particulier pour les petits. Il est parti pour quelques jours avec sa famille, donc il est très assidu à nos séances, et il regrette beaucoup de ne pas être des nôtres aujourd'hui. Il y a peut-être eu un petit malentendu sur une question de calendrier. Voilà, donc il a créé cet institut. Donc, je ne vais pas vous donner du tout son programme, son ses objectifs, en aucune façon. Disons, on a besoin de, pour comprendre ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, on a besoin de dire au moins un mot. C'est que dans le cadre de cet institut, c'est peut-être l'idée centrale de l'institut, je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée qui est au centre de notre collaboration avec l'institut. Il a voulu mettre le mot de jugement. Disons qu'on réfléchit sur la question du jugement, mais pas du tout au théâtre, ou même pas spécialement dans la culture, au sens très large, dans une description très, très large des questions que ce mot engage, ouvre. Alors, dans le cadre de ce programme général, il y a toute une série d'activités à l'IRI, qui elles-mêmes prennent place dans un registre d'activités plus large, et ces activités à l'IRI, je ne vais pas non plus du tout décrire, comprennent divers séminaires, et celui-ci est un des séminaires de ceux qui se sont créés cette année dans cette maison. Ce sont des séminaires en général, c'est l'indication qui a été souhaitée au départ, des séminaires fermés, ce ne sont pas des activités publiques, ce sont des activités qui réunissent un noyau de gens qui travaillent sur une question déterminée, et puis à l'occasion des invités, comme il y en a aujourd'hui, je ne parle pas seulement de nos invités intervenants, mais de tous ceux qui sont ici pour la première fois et à qui je souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il dans ce séminaire? Nous l'avons appelé sur la faculté de jouer. Pas difficile de voir que ce titre est une espèce de petit jeu de mots qu'on avait lancé un peu par hasard et qui a été relevé. Voilà, évidemment qu'il est évident que la faculté de jouer, c'est un. Dans ce contexte, ça peut sonner comme une espèce de façon de se démarquer à la fois de la faculté de juger, de la célèbre faculté de juger, qui a donné lieu à toutes sortes de réflexions, et en particulier, bien sûr, à la critique de la faculté de juger de Kant. Pour le dire aussi brièvement qu'il est possible, mais nous y reviendrons dans la discussion de notre réflexion d'aujourd'hui, pour le dire aussi brièvement qu'il est possible, notre question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est du jugement dans le jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jugement dans le jeu et quel il est. C'est une question qui est peut-être facile à énoncer comme ça, maintenant, à laquelle il n'est pas facile de répondre. Un jeu, s'entendant ici, plutôt au sens de jeu d'acteur, jeu de comédien, jeu qu'il s'éprouve dans le théâtre autour de lui. Nous voudrions savoir si la question du jugement, si on l'applique au théâtre, peut être arrachée au site ou pas, on n'a pas encore la réponse, au site où on a l'habitude de la placer, c'est-à-dire au jugement de goût du spectateur. Ça, c'est une chose qui a été beaucoup élaborée, théorisée, modélisée de toutes sortes de façons, que le spectateur, à supposer qu'une telle chose existe, le spectateur a formule un jugement de goût, voilà, jugement esthétique, si vous voulez. Alors, notre question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un jugement dans l'activité pratique des acteurs? On reviendra sur cette question, sans doute, dans le cours de notre discussion. On a fait pour ça tout un programme qui occupe l'année, et ce programme avait deux grands moments, et nous sommes là, je crois, exactement au point de bascule entre ces deux moments. D'une part, nous avons surtout interrogé des historiens, des érudits, qui ont eu la gentillesse de venir ici, non pas du tout pour faire des conférences, mais pour participer à des discussions et tenter de répondre aux questions que nous pouvions leur poser. Alors pourquoi cet aspect historique au départ? Parce que pour réfléchir sur le jugement des acteurs, ou le jugement dans le jeu, pour nous demander s'il y a un jugement des acteurs qui soit distinct ou isolable du jugement des spectateurs, on a pris une espèce de méthode, hein, qui consistait à se dire, ben, prenons comme exemple, mais ce n'est qu'un exemple, comme terrain d'analyse, certaines expériences qui depuis assez longtemps ont tenté d'imaginer une activité de théâtre qui ne soit pas fondée dans le rapport au spectateur. C'est-à-dire qui n'exclut pas le rapport au spectateur, mais dont le rapport au spectateur ne soit pas pensé comme le fondement dernier, comme l'instance de légitimation ou d'instauration la plus radicale. Vous voyez bien pourquoi, hein, puisque on voulait essayer de se demander s'il y avait un jugement des acteurs, un jugement sur la scène, donc on mettait en suspens la question de savoir s'il y avait un jugement des spectateurs. Non, pas du tout qu'on est contre les spectateurs, hein, on les aime beaucoup, la question n'est pas là, on est nous-mêmes spectateurs comme tout le monde ici-bas, à certains égards. Il nous semblait que c'était une façon de faire varier les données du problème pour voir comment ça pouvait marcher. Donc on s'est plutôt intéressé, si vous voulez, à diverses expériences de théâtre, ou bien sans spectateur, ou bien d'un théâtre qui a essayé de penser son activité pour ce que ça produisait sur ceux qui le jouent, et non pas pour ce que ça produisait sur ceux qui le reçoivent ou qui le regardent. Alors, on s'est intéressé dans ce cadre, d'abord au théâtre pédagogique, parce que le théâtre pédagogique, c'est un théâtre qu'on fait faire à des gens en pensant que ça produira un effet sur eux, et non pas sur les gens qui vont être spectateurs de cette activité. Donc on s'est intéressé au théâtre pédagogique aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir un très grand spécialiste, Jean-Marie Valentin, qui est venu ici en débattre avec nous. Puis on s'est intéressé à une expérience de théâtre pédagogique particulière, qui est l'expérience de la Maison de Saint-Louis à Saint-Cyr, pour laquelle Racine a écrit Phèdre et Camille. C'est Georges Forestier qui était avec nous pour le faire. Voilà, on a fait une série de séances comme ça, on s'est intéressé à Diderot, à la fiction produite par Diderot d'un théâtre sans spectateur, dans les entretiens sur le fils naturel, enfin dans le dispositif autour de la pièce Le fils naturel, au rapport entre Diderot et Eisenstein, parce qu'il nous a semblé que c'était un rapport très particulier qui méritait d'être éclairci à partir de certains textes d'Eisenstein, pour lesquels nous avons eu... Youssef Ishakpour qui a eu la gentillesse de venir parler avec nous, voilà. Ça c'était donc une phase, si vous voulez, comment dire, historique, un peu avec des érudits, informatives, voilà. Certains ici y ont participé. Je crois qu'on y a pris beaucoup de goût. Et puis, on a basculé, on est en train de basculer vers un deuxième pan, il y en aura peut-être trois, de cette réflexion. Et ce pan est un pan où nous interrogeons plutôt des praticiens. C'est bien le moins d'ailleurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit à la fin des temps. Et en particulier, bien sûr, des praticiens dont on a eu l'impression, mais ça vous nous direz si cette impression était fondée ou pas, à votre égard par exemple, dont on a eu l'impression que, au fond, la question de faire des spectacles devant des spectateurs n'était peut-être pas ni certainement la seule, et peut-être même pas la première ou la principale, mais ça je ne sais pas, c'est une supposition qu'on fait, et sur laquelle on attend votre éventuelle confirmation ou affirmation. Donc clairement, des gens qui travaillent très longtemps sous forme d'atelier, qui sont dans une phase de recherche, pour lesquels on a l'impression que la présentation est une présentation qui a lieu assurément, mais qui peut avoir lieu de façon un peu raréfiée, etc. etc. Alors, Dans ce cadre, j'ai pensé à solliciter Emmanuel Ostrowski et Julien Gaillard, Joseph Rotner, qui sont respectivement le et les principaux animateurs, peut-on dire, de l'atelier permanent de recherche théâtrale. Alors, moi, je vous connaissais par des relations au départ qui étaient amicales, hein, parce qu'il y a des gens ici qui travaillent ici ou dans l'environnement ici. On peut citer Johan Hollande, par exemple, qui est très présent dans le champ de réflexion qui s'est ouvert cette année. Mais il y en a d'autres aussi qui avaient attiré notre attention, soit pour le travail que vous faites en tant qu'atelier, soit pour le travail que Emmanuel a fait et a animé beaucoup à l'Université de Technologie de Compiègne, qui est un nom qui est une certaine présence dans ces lieux. Voilà. Et donc voilà, moi j'avais entendu parler du travail d'Emmanuel et de l'atelier, puis j'avais envie de leur proposer. On s'est rencontrés, on en a parlé, et vous avez eu la gentillesse d'accepter cette invitation, ce dont je vous remercie vivement. Voilà. Il s'est trouvé que les choses ont pris un tour, comme on risque de l'évoquer à plus d'une reprise pendant la séance, que les choses ont pris un tour un peu inattendu, que je dois dire, il me semble, pour poursuivre et peut-être même terminer cette longue présentation, c'est que votre séance succède à une séance qui a pris un tour inattendu, hein, qui est la séance qui a eu lieu ici même il y a 2 semaines. Alors, dans l'ordre des choses, dans le programme, on avait pensé s'intéresser à Grotowski, d'une part, et s'intéresser au théâtre didactique de Brecht, d'autre part. Théâtre didactique de Brecht, parce que c'est un théâtre pédagogique, comme d'autres, c'est une expérience récente de pièces qui n'étaient pas faites pour et qui ont peut-être même exclu l'idée d'être représentées devant des spectateurs. Donc la séance sur le théâtre didactique de Brecht, elle aura lieu le 5 mars, avec Hervé Loachmol, qui d'ailleurs est là, et que je remercie à la fois d'avoir accepté notre invitation et de sa présence aujourd'hui. Voilà, et puis il y avait une séance sur Grotowski. La disponibilité des uns et des autres a fait que le calendrier a été un peu bousculé, et que Grotowski est passé avant Brecht, ce qui n'est pas une évidence. Et puis ça s'est très bien tombé, hein, pour une raison qu'on va voir, c'est très bien tombé, c'est que donc juste avant de vous inviter et de vous recevoir, nous avons eu une séance autour de Grotowski. Alors, j'avais sollicité Georges Banu, dont je connaissais les travaux d'historien du théâtre contemporain, du théâtre du XXe siècle, et pour qu'il nous aide à avoir quelques éléments là-dessus. Georges Banu a eu l'idée de s'adresser au centre Grotowski de Pontedera pour avoir des documents filmés. Ces documents filmés, nous les avons vus, mais le directeur du centre Grotowski de Pontedera, qui s'appelle maintenant Centre Grotowski et Thomas Richard, le directeur du centre Grotowski qui s'appelle maintenant Thomas, moi je me trompe probablement, mais je ne suis pas sûr que d'arriver à essayer de donner les éléments, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour la première fois. J'essaie de donner quelques éléments pour qu'on puisse avoir des repères communs. Bon, Thomas Richards, donc l'animateur de ce groupe, beaucoup plus que ça d'ailleurs, est venu lui-même présenter ses documents. C'était une journée mémorable. Et pourquoi est-ce que je l'évoque ici? Parce que c'était la journée précédente, et aussi pour une raison dont nous vérifierons là aussi la légitimité. C'est que j'ai eu l'impression, sans assez vous connaître, que c'était bienvenu que nous ayons eu cette séance juste avant la vôtre, parce que il me semblait deviner, un peu plus que ça, que votre travail s'établissait dans une certaine référence à celui de Grotowski, c'est-à-dire une certaine proximité et un certain écart. Et donc, les choses ont fait que nous vous voyons après avoir une séance qui a été mémorable et qui nous a assez impressionnés, je crois. Vous-même, vous étiez là et nous avons vécu un moment assez très fort. Voilà. Alors maintenant, la séance d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un séminaire. Hein. C'est une discussion. Donc, nous nous remettrons tout à l'heure, si vous voulez bien, autour de cette table, la façon la mieux répartie possible. Mais nos invités ont eu la gentillesse de vouloir nous montrer quelques images avant cela. Grâce à Xavier Sirvin, il a semblé possible de les voir. Voilà, c'est à vous. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, le déroulement qu'on a prévu serait le suivant. On va commencer par voir quelques images qui vont être projetées ici. Donc, on va les mettre dans une disposition un peu frontale, présentées ou introduites et commentées, je ne sais pas, introduites par Emmanuel. Et après cette introduction, qui je crois
sera bref et tu prends le temps que tu veux, Emmanuel.
Après cette introduction, eh ben, nous aurons une discussion ensemble, d'une part sur l'activité de l'atelier en général, hein, sera pas du tout, il n'y a pas de restriction par rapport à notre conversation, et d'autre part éventuellement, si possible, autour des questions que nous essayons de tenir d'une séance à l'autre. Voilà, excusez-moi pour merci de votre patience. Voilà. Il faut venir quelques
mots. Vas-y, je t'en prie.
Merci beaucoup d'être venu à ce séminaire. Peut-être un mot sur la relation que l'on entretient avec Grotowski, dont on parlait à l'instant. Il y a, comme le disait Denis, une proximité et un écart avec le travail de Grotowski. Bien évidemment, une proximité géographique, en tout cas, puisque depuis quelques années, comme on le verra dans les documents, vous travaillez en Italie, très près de World Center, à quelques kilomètres, donc il y a une proximité réelle, dans une maison qui appartient à Roberto Bacci, qui est l'homme qui a fait venir Grotowski en Italie, donc il y a un lien très fort géographique, et plus que ça, esthétique, évidemment, philosophique, je ne sais pas. Mais je voulais dire quelques mots d'un autre homme de théâtre, peut-être certainement beaucoup plus important pour nous que Grotowski, dont on est si proche, dont on parle si peu ici et ailleurs d'ailleurs. Il s'agit de Claude Régis, que certains connaissent certainement de nom. On a choisi en ouverture de ces quelques images que l'on va vous présenter, de vous faire voir un très court fragment d'un très beau film consacré au travail de Claude Régis. On va voir une actrice magnifique qui travaille quelques lignes de Lenz de Büchner. D'une part, pour rendre hommage à Claude Régis, dont on est si proche, je crois qu'il y a une filiation, là, directe, peut-être aussi forte qu'il y avait entre Stanislavski et Grotowski, entre Ostrovski et Régis, il y a des liens très très forts, évidemment, extrêmement forts. Donc on a décidé, avant de montrer nos propres images, de regarder ces quelques minutes du travail de Claude Régis. On va regarder ça, puis je dirai quelques mots après pour introduire les images consacrées là, directement à notre travail après. On va regarder Régis. Quelqu'un pourrait fermer la porte, Florent, tu fermes.
Oui.
Ne peut être ni trop peu de choses, ni trop laid. Et c'est alors qu'on peut les comprendre. Un visage insignifiant fait une impression plus profonde que la simple sensation du beau. Et on peut laisser les formes sortir d'elles-mêmes sans copier quelque chose du monde extérieur où aucune vie, aucun muscle, aucun pouls ne bat et ne se gonfle.
En hommage à Régis, pour simplement indiquer la filiation, on en reparlera certainement beaucoup pendant les questions-réponses qui suivront les images que l'on va voir maintenant consacrées à notre travail. Alors je vais introduire les images que vous allez voir, je vais essayer d'être bref, mais de dire quelques mots, je pense indispensables, que vous puissiez les recevoir. Donc les photographies, il s'agit d'un montage photographique, les photographies que vous verrez de paysages et les photographies des acteurs sont faites par Joseph et par moi, donc c'est un travail maison. Et les sons que vous entendrez, à l'exception de quelques mesures de Chelsea, sont enregistrés aussi par Joseph. Donc tout le travail que vous verrez, visuel et sonore, vient de l'atelier.
à travers ces quelques paysages qui sont photographiés depuis la maison dans laquelle on travaille en Italie et juste autour de la maison, très très proche, à quelques pas autour de la maison, pour essayer que vous saisissiez l'environnement visuel, sonore, dans lequel on travaille depuis maintenant 5 années, tous les étés. Donc c'est un peu la base arrière de l'atelier, cette maison en Toscane, dans laquelle on se retire tous les étés pour travailler sur un projet qui est issu du premier voyage qu'on a fait en Italie en 2003, dans le cadre de la Villa Médicis, sur les murs, autour de la résurrection du Christ, autour du corps ressuscité. Donc tout le travail que l'on fait depuis maintenant 4-5 étés dans cette maison est lié à cette problématique très centrale, infinie, on peut dire, pour nous, du relèvement du corps. Qu'est-ce qu'un corps ressuscité? Comment peut-on travailler ça? Vous allez voir un certain nombre d'images, un certain nombre de séquences improvisées, donc photographiées. Vous verrez Joseph et Julien, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, questionnant ce mystère, pourrait-on dire, de l'état du corps ressuscité. On en parlera certainement beaucoup après dans les questions que vous nous poserez certainement. Alors on va peut-être regarder ces images, alors ça dure une 20aine de minutes, donc il y a un certain nombre de petites séquences, il y en a 6 ou 7, je ne sais plus, ils vont essayer, j'espère, vous nous direz, de vous faire saisir très concrètement ce que l'on essaye de faire au théâtre, bien évidemment, puisque très peu de gens parmi vous, à part l'exception de certains, ont vu ce que l'on fait, ça vous permettra d'accéder un peu mieux à la matière de notre théâtre, hein, qui est très particulière. Voilà, on va regarder ça.
Il neige de l'autre côté du monde. Sur les forêts, sur les labours, sur les marches du perron, sur l'étoile, au-dessus du seuil, ces cinq rayons là-haut, derrière la vitre d'angle. Le temps neige de l'autre côté du monde, effaçant toutes ces choses qui sont à lui, comme s'il se niait lentement lui-même.
Merci beaucoup. Merci. On peut peut-être se remettre un peu plus en cercle possible compte tenu du nombre de chaises qu'il y a. Enfin voilà. Et ensuite, juste un peu la discussion sur ce que vous venez de voir. Les trois garçons que vous voyez à l'instant, Vincent et Baptiste, ne font pas partie de l'atelier au sens fort du terme. Hein. D'ailleurs, c'est ça l'atelier, hein, tous les trois. Ce sont des élèves d'un des ateliers que j'ai eu à l'université de Compiègne dans lequel j'enseigne. Vous voyez que c'est juste pour montrer que le lien est très serré en fait, entre ce que je fais à Compiègne dans cet atelier pour les élèves ingénieurs et ce que l'on fait dans notre atelier ici en Italie. Juste une remarque sur le titre de ce travail, dans toutes les images que vous avez vues qui présentent méditation que l'on fait sur le relèvement, tout ce travail que l'on présentera, j'espère, bientôt à Paris, peut-être à l'automne ou au printemps prochain, s'appelle Andrea, ou le chemin de Vico, une élégie d'été. Comme vous l'avez vu, tout ce que l'on fait travaille sur l'été. Et là, vous aviez, bien que figé par l'image photographique, évidemment, tous les éléments qui constituent notre travail sur sur le vivant, le corps, évidemment, les lumières, les sons, très importants, et beaucoup d'autres choses que vous avez vues dont on va parler, je pense.
Alors écoutez, je vous propose, comme on l'a fait à chaque séance avec nos invités, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, qu'on commence par une conversation la plus ouverte possible sur ce que nous allons voir et puis aussi tout ce que nous ignorons de votre travail en général, parce que aussi bien pour les habitués du séminaire que peut-être pour les autres, il y a un désir d'en savoir beaucoup plus. Donc voilà, on va. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera de rejoindre de façon plus serrée les questions qu'on se pose ici. Alors voilà, c'est ouvert à nous tous, évidemment, comme tout à chacun. Oui, monsieur Domange.
Pourquoi travailler sur le corps de la résurrection et pas sur le corps tout court, par exemple ?
On ne peut pas vraiment travailler sur le corps sans se poser la question du corps ressuscité pour moi. Je crois que c'est très lié en fait. Hein. Puisque l'essentiel du travail que l'on fait est un travail sur le vivant, sur le théâtre comme art du vivant, forcément on doit travailler sur la mort, donc sur la résurrection. Ça me semble très lié en fait. Hein. Ça me semble très très lié. Je crois que c'est une chose qu'on a compris. Il y a assez longtemps dans l'atelier, c'est à partir de là qu'on a eu l'idée de ce voyage en Italie, qu'on a travaillé en Italie, à partir de la peinture qui représente le corps ressuscité. On a saisi que l'état dans lequel est l'acteur quand il travaille est très proche sans doute de ce que l'on imagine être l'état d'un corps ressuscité. Comment perçoit-on le monde, le vivant, après la mort ? C'est un petit peu ce que l'on a voulu montrer dans les photographies de paysage que Joseph a fait, que j'ai fait, couleur et noir et blanc, c'est un peu comme ça que l'acteur, dans l'état de concentration, perçoit le monde. C'est assez proche. C'est ce que l'on imagine, en fait. C'est ce que l'on cherche, voilà, à comprendre.
Monsieur, vous parliez.
Non.
Ah, je croyais pas.
Non.
Je partais là-dessus.
Tu grattes. J'avais vu un bracelet levé derrière moi. Oui, Frédéric.
Moi, je me demande juste, dans les images de Chris Michael, j'ai eu vraiment la sensation d'une intrusion dans un territoire donné. Donc, je me demandais si vous pouvez vous dire. J'ai des surprises. Il y a toujours le lieu écrit, il y a des photos qui rappellent le même endroit, c'est inscrit par rapport à l'église.
Oui.
Donc,
ah oui.
Moi, ça m'a surprise par rapport à l'univers, donc je me demandais si
oui. Bien sûr.
pour nous, l'idéal, évidemment, ça serait d'emmener les spectateurs témoins dans cette maison. Ça serait l'idéal. Si on peut vous emmener tous et d'autres dans cette maison pendant l'été, ça serait l'idéal. Parce que c'est là que tout se crée, avec la maison comme elle est. Comme vous avez vu sur la photographie, la maison n'est absolument pas transformée. On fait le deuxième étage de cette grande maison que l'on voyait en photographie à un moment, pour tout le deuxième étage, sans aucune transformation de l'espace, sans aucune lumière ajoutée. On ne travaille qu'avec la lumière du jour, dans différents moments du jour, et toujours avec les sons, comme on l'entend là, toujours avec les sons de nature, donc avec l'aléatoire de la lumière et des sons, et avec l'aléatoire de ce que cette maison nous a apporté, et de ce qu'elle nous apporte chaque année. Donc l'idéal, évidemment, ce serait d'emmener les spectateurs témoins dans cette maison avec vos Pisano pour leur faire partager cette élégie d'été. Mais puisqu'on ne peut pas le faire, ou à part peut-être quelques privilégiés qui viendraient jusqu'à nous en Italie, on va essayer de trouver un espace ici en région parisienne, peut-être dans un rayon de 50 à 80 km de Paris, à la campagne. C'est très important, le silence et les bruits de la nature. Et on va essayer d'investir un nouveau territoire, en fait. Et c'est vrai que ce que vous avez vu là, ça, c'est chez nous, vraiment. C'est pourquoi il y a toujours le nom, comme vous l'avez remarqué, Nico Pisano. C'est vraiment... C'est comme la matrice du travail. Parce qu'évidemment, ce que l'on dit sur la résurrection, des choses comme ça, sont à la fois centrales et secondaires. L'essentiel est sans doute la maison. Puisque le théâtre que l'on fait ne peut pas s'enfermer dans un théâtre. Il ne peut pas s'enfermer dans des lieux terrifiants comme celui-ci, par exemple, sans lumière, avec des bruits mécaniques. Vous entendiez que deux fois dans la bande-son, il y a des bruits mécaniques qui interviennent. Il y a un tracteur à un moment et un hélicoptère. Donc on travaille beaucoup avec ça. Alors l'idée que l'on a maintenant, c'est de travailler avec un de nos amis qui est ingénieur du son pour le cinéma, de lui faire capter un certain nombre de sons. On fera sans doute ça l'été prochain en tournant en Italie. Et peut-être qu'on pourrait réinjecter ces sons artificiellement dans un autre lieu pour créer des décalages entre les saisons, parce que il y a un autre. Donc nous on fait toujours l'été, parce qu'on ne passe pas d'autres moments que l'été. Et on travaille en même temps beaucoup sur des choses d'hiver. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mêlement des saisons. Par exemple, le seul fragment de texte que l'on entendait, qui est un très court extrait de Étoile de Gustave Roux, qui disait un ancien comédien de l'atelier, que certains ont connu, je pense, c'est un texte qui est vraiment sur l'hiver. Et ça m'intéresse, ça nous intéresse beaucoup de mêler les saisons. Mais ce travail que l'on fait est vraiment une élégie d'été, puisqu'on a présenté l'année dernière à Paris, à la Générale, dans ce grand squat de la Générale, dans une cave, un travail qui s'appelait Élégie d'hiver. Peut-être un très court spectacle qui travaillait vraiment sur le froid, parce que les acteurs avaient très froid, les spectateurs avaient très froid, vraiment très très froid. C'est-à-dire qu'il y a exactement un an, il faisait extrêmement froid, et on travaillait sur ces conditions-là. Ce qui nous intéresse beaucoup en été, c'est de travailler, comme vous voyez, les acteurs sont relativement dénudés, voire entièrement nus, de travailler sur la sensation de l'été, de la chaleur, dans le corps, évidemment, dans le corps de l'acteur et dans le corps du spectateur. Denis évoquait la question, je crois que nous, on se pose beaucoup la question du spectateur. Je pense qu'elle est même au centre de notre réflexion, de notre travail. Quel autre contrat on pourrait passer avec le spectateur? D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, comme vous l'avez peut-être entendu, on ne dit jamais nous spectateurs, mais toujours spectateurs témoins, et inviter les gens à être témoins d'un acte de vie, à venir être présents et à tisser une autre relation avec le spectateur témoin. Je crois que c'est une question que le théâtre français institutionnel a complètement écartée et ne travaille plus véritablement en France, de façon absolument anecdotique. De langue de bois, on fait semblant de s'intéresser au public, qui est complètement faux. Justement, Régis, je crois, Régis était, à mon sens, le seul metteur en scène français vivant à s'intéresser au spectateur véritablement, à lui faire une place, à construire entièrement son travail à partir de l'expérience de l'acteur et de l'expérience du spectateur, c'est-à-dire du lien. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à faire, nous, de travailler le lien qu'il y a entre l'acteur, l'homme en acte, et le spectateur, justement, dans le même espace, dans un espace qui n'est pas typé comme théâtre. On se posait toujours la question, comme on le voyait dans le film il y a deux semaines de Thomas Trichard, comment accueillir le spectateur témoin, comment l'introduire justement dans notre territoire, comment l'introduire dans la maison, puis comment l'asseoir, où l'asseoir, toutes les questions qui sont au centre du travail. Je crois que pour moi cette question elle est centrale, pour nous elle est vraiment centrale.
qu'est-ce que le spectateur témoin, comment on peut changer le théâtre en travaillant sur cette question-là de la place du spectateur témoin dans le théâtre. Ça me semble très très important. On se rendait compte en préparant ce séminaire, cette petite séance, cette grande séance, on se rendait compte, on a lu beaucoup de textes, on a vécu, on a regardé des tas de documents, on a discuté entre nous, et on se rendait compte que finalement le spectateur témoin, ça revenait tout le temps la question. Qu'est-ce qu'on veut pour l'autre, vraiment, pour vous? Qu'est-ce qu'on veut pour vous? Qu'est-ce que nous, on veut pour nous-mêmes, mais toujours pour vous? C'est-à-dire, sans le spectateur témoin, ça n'aurait aucun sens, en fait. Mais évidemment, pas du tout dans le sens où le théâtre institutionnel et autres le pose. C'est-à-dire, faisant semblant de s'y intéresser. C'est vraiment comment faire vivre le plus intense de l'expérience des acteurs à des spectateurs qui vont venir témoins de l'acte et qui vont dire... comme d'autres, comme d'aucuns, j'y étais. Je l'ai vu, j'y étais, je peux en témoigner. Voilà, donc à partir de là, il y a mémoire. Puisque les traces que vous voyez là sont des pauvres traces par rapport à ce que le spectateur témoin pourrait vivre. C'est ça qui nous intéresse. Hein.
Alors, est-ce que vous, juste du simple fait de façon factuelle, est-ce que vous construisez quelque chose comme une pièce, une œuvre, enfin, juste puisque la question a été débattue, voilà. Est-ce qu'il y a un temps déterminé d'une séquence que vous reproduisez, que vous cherchez à travailler ou à retravailler?
Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, on travaille très longtemps. Denis évoquait, on a besoin de beaucoup de temps pour travailler, donc c'est des mois et des mois, des années, on peut dire même sur les Légis d'été, pour arriver un jour à une structure d'un temps déterminé qui sera retravaillée chaque soir devant les spectateurs témoins. Donc il y a bien un jour une structure. L'année dernière, quand on a présenté à la Générale les Légis d'hiver, il y avait une structure, ça durait 45 minutes dans mon souvenir, il y avait une structure et chaque...
La Générale, c'était un lieu, hein, peut-être.
La Générale est un lieu.
Oui.
Ce squat dans lequel on travaillait. Et donc on est arrivé à une structure. Et là, avec cette élégie d'été, Andrea ou le chemin du micro, on arrivera à une structure. Là, pour l'instant, il y a des structures. Donc vous avez vu quelques traces là. Vous voyez, c'est soit Joseph qui travaille le relèvement, soit Julien. Parfois, il y a l'autre acteur vient et travaille avec le corps couché ou relevé. Enfin, il y a un certain nombre de propositions. Donc il y a des structures. Parfois on réinterroge, qu'on croise et qui très lentement. Le but c'est de ne rien savoir au départ, absolument rien, et que lentement la structure s'impose à nous et qu'un jour elle est là. C'est ça, c'est comme ça. Alors si, il faut beaucoup de temps évidemment, il faut des mois c'est sûr. C'est pourquoi l'atelier est un tout petit atelier parce qu'il faut beaucoup de temps pour qu'un acteur de l'atelier puisse travailler de la sorte, pour qu'il puisse laisser apparaître la structure, en fait. C'est ça, c'est une sorte d'effet de... une révélation, au sens un peu chimique. Hein.
Et cet ensemble-là, que vous disiez 45 minutes ou plus, ou moi, je ne sais pas quand vous y arrivez, j'ai encore comme ça deux questions de fait. La première, c'est, est-ce que vous diriez... Peut-être l'autre question plus simple. Est-ce que vous diriez que le lien, j'entends ce que tu viens de dire, mais est-ce que le lien au bout du compte, à la fin, qui rassemble, qui permet de passer d'un moment à l'autre, etc., est-ce qu'il est narratif, est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est thématique, est-ce qu'il est de pure sensibilité? Voilà, c'est une question. Et la deuxième, mais qui l'éclaire peut-être, ça serait, on a vu il y a 15 jours que c'était un travail, c'est la première chose que Thierry Charles a dit, fait à partir du chant. On a l'impression que ce qui servait à la fois de déclenchement, je ne sais pas, hein, moi, ce que j'ai vu et entendu, de déclenchement et de matériau c'est peu dire, hein, de ce qui se produisait, enfin disons d'opérateur de ce qui se produisait, c'était le chant. Est-ce que vous avez, vous, quelque chose, je ne sais pas, texte, exercice, enfin pratique d'un ordre quelconque, ou bien pas, hein, qui vous sert de déclenchement, enfin de ce à partir de quoi ou ce sur quoi vous...
Oui, par rapport à la première question, je crois que la structure à laquelle on essaye d'aboutir serait organique. On essaie que ce soit très organique, justement. Mais il y a une forme, c'est assez narratif, finalement. On peut lointainement, ça se rattachait à l'ordre de la narration. Mais c'est plus proche, évidemment, de la narration en poésie, par rapport au roman. Là, on travaille beaucoup, là, on va aller à la deuxième question, on travaille beaucoup à partir de la poésie, on lit beaucoup ensemble. Bien sûr, on ne peut pas raconter ici comment on travaille, parce que, d'une part, il n'y a pas véritablement de méthode, d'autre part, c'est quelque chose d'assez secret, on peut dire, qui est de l'ordre de l'intime, qui n'est pas vraiment révélable, on ne peut pas le révéler, le raconter. Mais ce qui est sûr, ce que l'on peut dire, c'est qu'on travaille beaucoup à partir de l'écriture poétique, et beaucoup à partir de la peinture, et de la musique, et du paysage, et de je ne sais pas quoi qui crée cette mémoire commune que l'on a. Donc on peut, sans donner trop d'indications au départ, s'aventurer lentement sur le chemin, par exemple, de travailler sur le relèvement, et puis voir ce qui advient jour après jour, et puis avancer dans l'incertain, sans savoir, puisqu'on ne travaille pas, par exemple, un auteur, une pièce évidemment, mais même pas un roman, on ne se dit pas, tiens, on va travailler sur tel ou tel roman, sur telle ou telle pièce, évidemment pas, mais on essaye de construire très lentement, mais presque malgré nous, malgré eux, en fait, que les choses se déposent jour après jour pour que ça soit le plus vivant, le plus organique possible, la structure à laquelle on aboutira, puisque structure il y a. Même une structure extrêmement précise, on pourrait dire au pas près, mais personne n'a indiqué le pas. Voilà, c'est ça qui est très particulier dans le travail. Il faut du temps, c'est ça. Je pense qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de silence, beaucoup de patience, beaucoup d'égarement, que très lentement on se... Un moment, c'est là. Là, ça devient public. Ça. Mais évidemment, quand on travaille en public, la structure continue à bouger quelque peu. On retravaille évidemment dans la journée, puis on travaille en public, et on parle, on essaie quand on travaille en public de rester entre nous, parce qu'on ne parle jamais à personne quand on travaille en public, ni avant ni après, ce que l'on appelle une présentation en fait. On essaie de rester entre nous, c'est-à-dire de ne pas être perturbé par le monde, mais d'être vraiment au travail en fait.
Monsieur, je reprends l'idée de ton idée de spectateur témoin en rapport avec le corps ressuscité, parce que je pense que ton... Évidemment, la métaphore de la résurrection est centrale dans ton travail, ce que tu cherches à faire. Alors évidemment, tu connais comme bon, l'histoire de Thomas, de mettre ses doigts dans l'endroit du clou, et le Christ lui dit d'accord, il lui dit après, tu as cru en touchant, en voyant, heureux ceux qui ont cru sans voir. Alors, si tu veux, une première question, si tu veux, ça serait, est-ce que les spectateurs témoins pourraient être touchés? Est-ce que, dans le problème du question du théâtre, se joue pas quelque chose de tout à fait central entre voir, toucher, entre comédiens, vous pouvez vous toucher, mais est-ce que le spectateur peut vous entendre, vous voir, est-ce qu'il pourrait vous toucher? Alors, il y a une autre chose, je ne sais pas si j'en ai parlé, qui en ce moment m'intéresse beaucoup, qui est une histoire qui est racontée par Don Talayeva. Soleil Obi. Giuseppe Talayeva était un indien Obi qui avait d'abord été élevé dans sa famille, puis dans une école de blancs vers les années 1900-1920, puis qui a eu une maladie et une crise mystique et qui retournait dans son village. Et là, il a rencontré un anthropologue pour qui il a écrit à la fois l'histoire de son peuple et sa vie. Et si tu veux, l'histoire que je vais te raconter dans ce livre est reprise dans un article qui vient d'être publié de Octave Manoni, qui s'est beaucoup intéressé au théâtre, comme tu sais, et un article remarquable qui s'appelle Je sais bien, mais quand même. Et alors, l'histoire de Tavagnifa qui est une histoire que tout le monde sait maintenant, que dans la plupart, un très grand nombre de sociétés, ça se passe comme ça. Tu as un panthéon qui est très large, et puis tu as, certains jours, des êtres qui viennent avec des masques et qui sont des kachinas. Comme vous avez peut-être vu, ces petites poupées, on les fait pour les enfants, moi j'en ai un certain nombre. Et ces kachinas donc, dansent, ils ont des masques, et puis ils disent qu'ils vont manger les méchants enfants. Et les mères les empêchent de manger les enfants, en échange, leur donnent de la viande, et après ça, ils se calment, ils donnent du maïs rouge aux bons enfants. Alors, évidemment, les kachinas, c'est les pères et les oncles des enfants. Alors, les mères là-dedans, comme d'ailleurs les femmes dans la plupart des sociétés qui ont ces structures, sont censés ne rien savoir du tout, soit en tout cas ne sont jamais initiés, ou participent à la supercherie mais dans une position subalterne. Alors vers 10-12 ans, les enfants sont initiés et on leur apprend que c'est leur père et oncle qui ont fait la supercherie, que c'est une supercherie. On leur montre les masques, on leur fait toucher. Alors ils ont une crise affreuse de nihilisme. Et puis les pères leur disent, mais attendez, quand même, autrefois, les kachinas venaient vraiment avec un corps danser. Maintenant ils ne viennent plus, mais quand on met les masques à certaines occasions, ils viennent en esprit. Et donc les gosses ressortent de là adultes, c'est-à-dire des gens qui savent que c'est une supercherie, que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de corps, mais que quand même, c'est vrai, d'une certaine façon, je ne sais pas trop comment. Et donc, si tu veux, alors les femmes, qui elles sont les vraies dominées de l'histoire, parce qu'elles ne passent pas d'une situation à une autre, ne font jamais ce mouvement. Sans doute qu'elles pensent que leurs maris sont des menteurs, mais qu'il y a peut-être d'autres villages où il y a des vrais kachinas qui viennent. Alors, tu as d'autres sociétés comme les Araspèches, c'est plus compliqué, tu as 5 stades avec un niveau extrême où on sait qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il n'y a aucun secret. Alors, par rapport à ton objet, si tu veux, j'ai bien l'impression que c'est ce que tu veux faire, c'est-à-dire, tu veux faire passer, c'est bien ça la résurrection, et ça nous ramène à Thomas, évidemment. Heureux ceux qui ont cru sans voir, c'est exactement l'initiation des enfants copies. Ils croyaient que c'était un corps qu'on aurait pu toucher, qui pouvait vous manger, et puis ils apprennent que c'est rien, et puis finalement, non, quand même, ils repartent avec. Et c'est pour ça que la question de savoir si le spectateur peut toucher, à mon avis, est très importante. Et il me semble que ce que vous essayez de faire, c'est effectivement une résurrection, c'est-à-dire le passage d'un corps qu'on peut toucher, un corps littéral, on va dire, un corps qui se manifeste dans la présence, mais autrement. Alors le problème ce que j'ai par rapport à votre travail, c'est la question de la pureté. C'est-à-dire, je connaissais les photos que tu as montrées, et ce qui me trouble un peu, c'est la pureté. Est-ce que, par exemple, si Joseph, au lieu d'être allongé, d'être debout, s'il mangeait une choucroute, par exemple, est-ce que ça marcherait? C'est-à-dire, en quoi est-ce que le blanc, la cruche en terre, si par exemple, si à la place de la cruche en terre, il y avait une bouteille d'épargne en plastique, est-ce que ça marcherait?
Oui, ça marcherait, bien sûr.
Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que le passage au corps de second niveau, parce que ça serait beaucoup plus fort si tu pouvais faire le passage au corps de second niveau en mangeant de la choucroute.
Oui, ben ça c'est une question de point de vue, mais bien, évidemment, ce que vous voyez là, qui n'est qu'un tout petit fragment d'une très longue structure improvisée. En général, quand on travaille en Italie, une structure improvisée dure, disons, trois heures, ça peut durer quatre heures. C'est long. Et là, ce qu'on voit, c'est en général l'amorce de la structure. C'est-à-dire quand le corps est allongé dans un état de mort, puis va se relever. Et après, une fois que le corps s'est relevé, ce que l'on voit peu ici, on voit un moment Julien qui lève la cruche et l'eau coule sur son torse, sur son corps, le corps va agir. Par exemple, dans d'autres structures, Joseph, à un moment, se baignait, mangeait. Voilà, je croûte parce que c'est un petit peu...
C'est ça, tout ça qui te tape château.
Puis les Alsaciens, c'est un peu redondant. Mais ils mangent des fruits. Donc Julien l'a beaucoup travaillé, Joseph aussi. Ils mangent des fruits, du pain, ils boivent, ils s'habillent, ils pissent, ils mettent des chaussures. Donc elle est pisser pour moi est une action beaucoup plus intéressante que manger la choucroute. On a beaucoup travaillé ça, ils ont beaucoup pissé. Par la fenêtre, contre les murs, parce que c'est une manifestation du vivant, justement. Et ça m'intéresse beaucoup plus de voir un homme pisser que de voir manger de la choucroute. La cruche, je la trouve plus jolie qu'une bouteille en plastique, ça c'est une question esthétique. C'est également comme pour la messe, j'ai eu une longue discussion avec un des camarades chrétiens. Lui tenait pour le calice en pyrex, et moi j'étais plutôt pour le calice en or, mais ça c'est une question de goût.
Comment elle était de la maison, cette cruche?
Oui, c'est cruche, je dis, c'est une cruche de la maison. Dans tous les objets que vous voyez là, les draps, le lit, la cruche, tout ça fait partie, c'est nos objets du quotidien, c'est on vit avec. Ceux qui connaissent la maison peuvent certifier, c'est les mêmes lits, les mêmes matelas, les mêmes draps, ne dis pas le contraire. Donc c'est le quotidien en fait, c'est le quotidien, mais c'est comme ça que moi je vis, c'est le quotidien peut-être qui est pour moi le plus simple, le plus réel, le plus beau. On pourrait évidemment se dire on va faire du théâtre dans une banlieue parisienne, dans un immense sous-sol comicier avec un bruit soufflerie, on pourrait, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. J'ai très envie, par exemple, qu'il y ait les bruits de nature. Mais j'aime beaucoup, on l'entendait dans le montage, et c'est souvent comme ça, il y a beaucoup de bruits mécaniques. Il y a souvent des avions, il y a souvent des hélicoptères, il y a des tracteurs, il y a des voitures parfois au loin sur les routes. Enfin, il y a un certain nombre de bruits qui vont interférer avec les coqs, très présents, les oiseaux. Parce que, comme vous avez vu, on est en pleine nature, on est très très loin du village. Donc c'est très silencieux. Mais il y a évidemment des bruits des hommes aux alentours, c'est qu'ils ne soient pas très proches. Par exemple, il y a un bruit qu'on aime beaucoup, et c'est toujours aléatoire, c'est quand notre voisine arrive avec sa voiture. On entend un bruit dans le chemin de la maison, on entend le bruit de sa voiture, elle freine, elle claque la porte, en général son chien aboie. Donc ça fait partie. Tout ce que l'on fait est extrêmement quotidien. On vit comme ça, et on travaille pareil. Il y a peu de différence finalement. C'est juste un état de concentration qui fait qu'on perçoit différemment les sons.
C'est juste comme les mêmes fibres, mais qui sont tissées différemment à un moment donné dans le processus du travail.
Et pour toucher, tu n'as pas dit.
Oui, justement, je reviens à toucher.
L'acteur.
Alors, ça, c'est une grande question. Le spectateur témoin peut-il toucher l'acteur?
Ou est-ce que c'est ça la différence?
Il ne peut pas
toucher. L'acteur peut se toucher.
Alors, je pense que le spectateur témoin ne peut pas toucher l'acteur. Les acteurs, puisqu'ils se touchent entre eux, c'est extrêmement rare. C'est déjà extrêmement difficile. Ça se fait, parce qu'il y a des moments très, 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 très intenses de touchement. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans Oreste, que tu as vu, que l'on a présenté il y a quelques années au Aubervilliers, d'après un texte de Ritsos, les deux acteurs ne se touchaient pas. Et j'ai un de mes amis, philosophe, au demeurant, qui m'a dit c'est très 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 intense, c'est très fort ce qu'ils font, surtout le moment où ils se touchent, c'est inoubliable, c'est une émotion inoubliable. Ils ne se touchent pas. Bien sûr que oui qu'ils se touchent. Bien sûr que non. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et ils se touchaient en fait. Sans qu'ils se touchent physiquement. C'est ça qui m'intéresse. Mais ils se touchent. Mais pas du tout comme. Ils se touchent dans l'état de. Du Christ avec Marie-Madeleine.
Dans l'état de second corps.
Voilà, dans l'état de second corps, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse.
Bon,
moi je suis pas tellement comme saint Thomas avant. J'ai pas tellement besoin de toucher pour croire. J'ai de la chance,
tu
me diras.
Non, mais si tu veux, l'apologue est là pour, je pense, pour faire. C'est exactement la même histoire que tu as là, pour faire comprendre cette chose qui, je pense, est anthropologique, les différences entre le programme de premier niveau, qui est celle des enfants du littéral, et une seconde élaboration qui passe par un nihilisme radical.
Il touche les masques. Il touche les masques, pas les esprits.
Ah, mais il touche les masques dans le moment de nihilisme.
Parce que les masques.
Voir qu'il n'y a rien.
Oui,
les masques, voir qu'il n'y a rien.
Les masques sont quotidiens. Les corps, plutôt les états du corps, les énergies du corps traversées dans ce travail avec Emmanuel, ne sont plus du tout quotidiennes. Donc intouchables.
Ces métacotidiens, c'est un terme grotowskien qui a été forgé par Grotowski. Là, il y a un point de recoupement très fort avec Grotowski sur le méta quotidien. Je pense que c'est ça que l'on cherche à faire. Juste une dernière chose par rapport à l'évangile, pour en finir avec les références évangéliques. Je crois que le moment qui nous. Un des moments qui nous bouleverse particulièrement dans les évangiles, c'est Emmaüs. C'est-à-dire, c'est le moment où ils reconnaissent le Christ par le geste. Ça c'est un intérêt. Sans le voir, c'est pas parce qu'ils le touchent à Emmaüs qu'ils le reconnaissent, c'est parce qu'il y a le geste. Et là, tout d'un coup, ils disent c'est lui. Ça m'intéresse beaucoup. C'est là qu'on travaille. C'est vraiment là qu'on travaille.
Et même, ce qui est intéressant dans l'exemple de. Je pensais à ça à l'instant de Marie-Madeleine et le Christ, c'est que c'est juste au moment où le Christ est à portée de sa main qu'il va lui dire non.
Tu sais ce qu'il lui dit ?
Ne me retiens pas. Et je pense que c'est beau au théâtre où justement on a la possibilité de le faire. Enfin, je veux dire, c'est à portée de main, mais ça n'est pas possible. J'aime beaucoup cet écart qui est pas l'écart de l'extrêmement loin. C'est pour ça que les grands théâtres, moi, me terrifient parce que ça, j'ai toujours l'impression au théâtre de la ville d'être à un stade de foot. Je suis toujours extrêmement loin. Et je me sens complètement. Donc pour moi, le phénomène théâtral ne marche plus à partir de ce moment-là. Alors que s'il y a comme une sorte d'extrême proximité et que ça n'est pas possible justement. Ça très.
Parce qu'il y a bien quelque chose de l'intime, c'est ce que l'on voit dans les photographies. Donc la pièce centrale dans laquelle on travaille est un peu de cette dimension, disons. Hein. Donc on est toujours très proche des acteurs, très très proche. Hein. Mais ils sont à la fois, moi en tant que spectateur témoin, enfin spectateur témoin tout à fait particulier évidemment, je me sens à la fois extrêmement proche d'eux, à pouvoir les toucher. Et en même temps très loin. Il y a toujours un moment qui m'impressionne beaucoup dans le travail. Ça a été très fort parfois dans le travail de Joseph. Imaginons que Julien soit sur le lit allongé donc pendant un très long moment. Donc il y a tout un tas sur la respiration pour baisser tellement la respiration que le corps est quasiment mort. Et puis à un moment, Joseph apparaissait par la porte qui était en face de moi. Il faisait un très très grand cercle autour du corps. Il venait me frôler. À chaque fois qu'il me frôle, il y a un mouvement en moi de recul, d'effroi véritablement, d'effroi et d'intense émotion. Jamais je ne pourrais toucher. Par exemple, moi je ne touche jamais les acteurs, jamais. C'est-à-dire, je ne vais jamais dans l'espace de travail pour les toucher, ce que font bien les metteurs en scène par exemple. C'est impossible.
L'énergie est trop forte.
C'est trop fort. Une question de l'énergie.
Même soi-même, enfin, moi si je parle. Travail d'acteur, il y a quelque chose de moi que je ne sais plus, une part de moi que je ne connais pas, qui existe, d'ailleurs qui existe même sans moi. Hein. Je ne sais même pas dire si c'est de moi ou si c'est pas de moi, ça n'a plus d'importance. Peut-être que c'est de moi et pas de moi en même temps. C'est une sorte d'énergie qui, dans la vie, est évidemment tout à fait inemployée. Hein, c'est pourquoi je fais du théâtre, sinon. Pourquoi d'autre que pour atteindre cet état d'énergie, cette énergie extraordinaire, une sorte de force qui peut se fêler à chaque instant, une extraordinaire fragilité en même temps, et qui se déploie comme ça, et ça va même assez loin parfois. Je ne sais pas comment on peut nommer ça, oubli de soi, ou état de présence au présent.
C'est être présent. Bah, moi, ce qui me trouble beaucoup quand je les vois, c'est que je ne les reconnais pas. Pourtant, je les connais. Hein. Je les connais, comme tu le sais très bien. Mais c'est pareil avec mes élèves, il y a plusieurs de mes anciens élèves ici. Quand je les fais travailler dans le cadre de l'université, dans le cadre d'un atelier très modeste par rapport à ce que l'on dit là, mais tout à fait proche de ce que l'on fait, hein. Renaud pour très bien en témoigner, c'était un de mes brillants élèves. Quand il est très centré, quand il est très au cœur de son travail, Renaud et beaucoup de ses camarades dans cet atelier de théâtre que j'ai à l'université, je ne les reconnais pas. C'est le signe, c'est vraiment le signe hein, qu'ils y sont, ça c'est sûr. Et Julien et Joseph, que je connais tant et tant, hein, c'est pareil, je ne les connais pas. Je le vois, puis je sais que c'est lui, mais il y a quelque chose qui fait que... Mais c'est réel, c'est son visage, c'est une question d'énergie. Son corps est différent. Par exemple, on le voit là, dans les photographies, dans le corps allongé de Joseph, ou quand Julien boit, quand il s'approche vers la vie, qu'il est torse nu, son torse est comme une sorte de miroir réfléchissant la lumière. C'est pas du tout son torse qui pourrait vous montrer, ben, ça sera, vous ne le verrez jamais, mais on le voit dans le travail. C'est ça qui est très intéressant. C'est là qu'il y a une bascule, en fait. C'est là il y a une bascule.
Cette bascule, elle se passe par, c'est très important, je pense, par rapport à la problématique du jugement, tout ça, par des actions extrêmement simples, étrangement simples, on va dire, et qui s'accomplissent dans un temps plutôt inhabituel, plutôt, oui, avec un rythme, mais peut-être c'est un rythme qui, par la respiration, par cette énergie qui commence à venir, nous met en accord avec quelque chose de là et de pas là. Nous met en accord
quelque chose. Justement, je vous donnerai deux papiers que je vous ai préparés et je lis ça à l'instant, un texte de Roger Mounier sur lequel on travaille beaucoup, qui dit ceci, exactement ce que dit Joseph, hein. Il est de ces êtres accordés comme ajustés à ce qui les entoure. Leurs gestes les plus communs nous font pressentir une vérité perdue. Un tel accord qui nous met en continuité avec les choses et pourtant notre voix profonde. C'est exactement ce que l'on cherche. Hein. C'est un accord. C'est pourquoi on est si proche de Gustave Roux, qui est un des... On parlait de ce qui fond le travail. La poésie de Gustave Roux, l'expérience spirituelle qui est la sienne, est fondatrice dans le travail de l'atelier. Hein. Son écriture, évidemment, et ses photographies, sa vie même, c'est comme une source à laquelle on va boire en permanence, et c'est ce qu'il a chanté, écrit, photographié, c'est cet accord de certains êtres avec le paysage, avec eux-mêmes, avec leur travail, c'est vraiment ça que l'on cherche à... Ce qu'il y a de si beau, un mot sur Gustave Roux, bien sûr, c'est tellement important pour le travail, c'est un poète suisse, très, très proche de nous, disons de façon un peu anecdotique, parce que je suis né dans le même pays que lui, donc j'ai un lien très très fort avec ce pays et avec cette œuvre, et c'est très concret. Alors, tout ce qu'il va dire est le fruit d'expérience qu'il fait dans le plus concret de la paysannerie du Haut-Jura dans les années 20, 30, 50, 60. C'est très très proche de ce que l'on cherche à montrer au théâtre, quelque chose de réel. Hein. Ça, c'est pas du tout une question de vérité ou de je ne sais pas quoi, c'est une question de réel. Moi, ce qui me désespère au théâtre, on peut dire, c'est que ça n'est pas réel. C'est quelque chose qui est toujours... qui n'est rien, pour dire les choses un peu simplement. C'est-à-dire, c'est pas réel, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... La lumière, tout est... Ça va pas, je vous comprends bien.
Bon, oui, alors, Margarita, on va peut-être... Juste un mot de méthode, on fait un petit tour encore... Deux questions, si vous voulez, sur l'aspect informatif, hein, ce que vous souhaitez savoir. On pourrait parler des heures, bien sûr, de l'atelier. Et puis, on va poser quelques questions aussi concernant notre objet. Margarita.
Bah, moi, j'aimerais beaucoup, en fait, vous parler un peu, de comment la peinture, justement, participe à votre travail, à cette basculement... peinture italienne notamment, puisque aussi avec la vie d'Amici, c'est aussi un peu de la peinture. Et comment participe de votre travail ? Très large question.
Oui, oui.
Très large.
Chacun va répondre. Je réponds quelques mots, mais chacun va répondre parce qu'on a tous les trois une relation forte et proche et différente à la peinture. je pensais à ça justement, j'étais vendredi à la fin de l'exposition d'Alexandre Lannes, et je me rendais compte en regardant très calmement la peinture que c'était ce dont on est le plus proche, la peinture. Je pense que c'est ce qui nous nourrit le plus. Je me rendais compte en regardant tel fusain, toile de Lannes, combien c'est proche et combien c'est exactement ça que l'on cherche. Alors bien sûr, lui, parce qu'il pas aujourd'hui, on en est proche, mais toute la peinture italienne. Hein. Parce que la relation à la peinture que l'on a existait avant le voyage en Italie de 2003, avant la Villa Médicis, bien évidemment, hein, pour chacun de nous et ensemble, vous l'avez déjà beaucoup, beaucoup regardé.
La Villa Médicis, c'est un séjour Villa Médicis hors les murs, dont Emmanuel a bénéficié et avec l'atelier.
C'est ça. Et puis, donc on a passé 6 mois dans le cadre que décrit à l'instant Denis en Italie. Pendant 6 mois, on n'a fait que voir de la peinture. Donc on a passé des centaines d'heures dans les musées, dans les églises que tu connais fort bien. Et on a regardé, on a essayé de s'approcher, de s'éloigner, de se laisser. C'était ça le projet initial. C'est ce qui s'est passé, de nous imprégner de cette peinture. Et on a petit à petit trouvé des chemins. Et il se trouve que donc toutes ces peintures, tous ces peintres qu'on en a regardés, c'est sans doute Piero della Francesca qui est devenu le centre, et toujours aujourd'hui, parce qu'on y retourne chaque année à Arezzo et ailleurs, le plus vibrant peut-être pour nous. Hein. Mais peut-être que chacun peut dire un mot de la relation à la peinture qu'il a, parce que c'est très central.
Enfin, qu'est-ce que je peux dire ? Peut-être, si on revient à la question du spectateur témoin, question assez centrale dans le séminaire, c'est la question, la même question pour moi se pose lorsque je regarde la peinture, et en miroir, c'est ce qui va se passer au théâtre. Quand je regarde la peinture, j'essaye que je prends le temps, le calme, le silence, que j'essaye d'ouvrir en moi, dans la relation avec cette peinture, pour passer de la concentration, c'est-à-dire la concentration, c'est-à-dire ce mécanisme qui met en branle la pensée, qui met en branle l'émotion, qui met en branle une qualité de perception, de la concentration à l'attention. Dans l'attention, c'est comme si je me retirais de quelque chose, comme si je pensais un peu moins, différemment. Et je suis moins omnubilé par ce que je regarde, et je laisse plus venir à moi quelque chose qui va m'inonder, qui va m'habiter. Et je vais habiter autant la peinture que la peinture va m'habiter. Cette attention, quand la pensée, et surtout le mental discursif, cesse un petit peu son activité un peu envahissante, quand cette attention a lieu, vraiment, on se met à voir, on se met à entendre, comme on a rarement l'habitude, et il me semble que c'est exponentiel, que ça s'accroît, que c'est comme si c'était une pièce qui s'agrandissait, comme une amplitude qui prenait des dimensions plus vastes, autres, inconnues. Et je crois que ce qu'on aimerait avec la relation du spectateur-témoin, c'est arriver à ce que, par notre travail, mais après, on ne peut pas conditionner ça, parce que ce serait revenir dans une chose de concentration et de volonté, le spectateur-témoin puisse être dans cette qualité d'attention que nous-mêmes on traverse, que nous-mêmes on vit. Et finalement, il serait quasiment autant acteur que nous. Peut-être un peu moins agissant, peut-être à une autre place. Je vois lui qui fait nom de la tête. Mais participant en tout cas à l'acte. Et alors là, pour moi, il y a une question qui est en suspens. Peut-être c'est pas à moi d'entendre. Emmanuel, mais qu'est-ce qui se passe chez le spectateur? Je l'ignore complètement. Et en fait, au fond, je m'en fous un peu. Simplement, je faisais ce parallèle entre moi, mon expérience de la peinture. Et après, si cette ce dérèglement des sens, si on peut dire, lié au regard de la peinture, qui moi, me fait vibrer et me fait frémir les pieds à la tête, parce que je retrouve des états que je traverse en tant qu'acteur. Donc, je revis une autre fois, différemment, mon expérience d'acteur dans d'autres conditions.
Avant que Julien ne réponde, une remarque sur l'attention, c'est très... Ça fait ça, ce que l'on cherche à faire, c'est que des choses à l'instant. Une anecdote, mais très troublante, et m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a deux ou trois étés, je ne sais plus, on a invité, ce qui est très rare pour l'instant, quasiment personne n'a vu ce travail en Italie. On a invité un metteur en scène de théâtre, que l'on connaît, à venir voir une improvisation. Il est venu voir une improvisation qui durait, dans mon souvenir, un peu plus de 3 heures. Et pour lui, ça a été épouvantable. Je pense qu'il s'est terriblement ennuyé. Il a dit, mais il ne se passe rien. C'est sûr, il ne se passe rien. Quand il ne se passe rien, ça commence à devenir intéressant. Je crois que lui n'a pas réussi, et c'était là, évidemment, la faiblesse de notre travail, on n'a pas réussi à l'entraîner dans ce que Joseph décrit très bien à l'instant, que nous, on a vécu, que l'on vit en regardant de la peinture. C'est-à-dire ce temps ouvert, ce silence, ce temps ouvert. Où, voilà, ici. Laisser les choses advenir. Peut-être Julien va dire un mot sur la relation à la peinture, si tu veux.
Oui, juste un petit mot, parce que ça pourrait, c'est un peu long, parce que ça pourrait être c'est un sujet sans fin, mais peut-être aussi. Une petite histoire, moi je me souviens quand on est arrivé en Italie, je ne connaissais pas du tout la peinture italienne la première fois, donc en 2003. On est allé un matin, très tôt, à Sienne. On est allé voir dans un très beau musée qui s'appelle le Musée de l'Œuvre, une maestà. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, une maestà. Siennoise qui usait un art très étrange, qui est encore très néo-byzantin, un peu icône, mais pas vraiment. Enfin, et donc j'étais devant cette grande peinture, c'est énorme dans mon œil. C'est assez grand, c'est tout un mur comme ça, on a une Vierge en Majesté avec un enfant sur les genoux et tous les saints autour. Et je me suis mis à regarder ça. Et je trouvais ça très étrange comme œuvre, mais je savais que culturellement c'était bien, c'était important.
C'était dans le programme,
c'était Villa Médicis, c'était marqué dans le guide, c'était une chose très importante. Et je regardais ça en me disant, qu'est-ce que c'est important? C'est magnifique, ce bleu de la robe, ce rose de l'enfant, les belles dorures. Et un moment, ayant passé en revue, je dirais, tout le tableau comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je jouis de ce tableau? J'en jouis. Et là, je me souviens très bien que... Je me suis dit, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas de jouir du tableau qui m'intéresse. Si je fais ça, et je suis même ressorti de l'exposition avec un sentiment de relatif dégoût, pour pas dire autre chose. Je pensais que j'allais venir voir cette peinture pour l'interroger, et c'est elle qui me renvoyait dehors en me disant, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et je me souviens de cette grande peinture dans ce pauvre musée. Je dis pauvre parce qu'il y a une sorte de c'est une peinture d'hôtel qui était dans la cathédrale de Sienne, alors. J'ai vu la cathédrale plus tard, et là il y avait des espèces de rideaux gris comme ça, et puis quand on s'approchait trop près, il y avait une voix enregistrée qui disait « Don't show the showcase » dans toutes les langues européennes, qui disait « Ne pas s'approcher de trop près ».
Il fallait pas toucher pour le coup là.
Voilà, il fallait pas toucher, et puis on me disait, et je suis ressorti de là en me disant « Je n'ai rien à faire devant cet art là, rien, mais rien, je me sens comme un, je sais pas, un bandit qui viendrait faire un casse la nuit et qui se fait prendre ». C'est tout d'un coup qui dit « Pardon, excusez-moi ». Et je sais que tout le parce que j'étais à l'extérieur, en fait. J'étais à l'extérieur, je me sentais à l'extérieur, mis dehors, repoussé par cette peinture. Et je sais très bien que l'été avançant, ça c'était au tout début, donc disons fin juin, je suis retourné la voir, je raconte un peu. Et je suis retourné la voir en novembre. C'est froid, tout d'un coup, il n'y avait plus du tout la chaleur. Il y avait une grande exposition sur Duccio, donc il y avait énormément de gens, un parcours fléché. Et je suis arrivé dans la même salle en me disant, je vais revoir cette œuvre. Et il y avait plein de gens dans la salle. Et j'ai aperçu entre les têtes la maestà. Et voilà. Et là, tout d'un coup, j'étais dedans, dans la peinture. Je me sentais, je ne sais pas comment dire... Enfin, j'étais un peu plus dedans, quoi. J'étais un peu moins spectateur de l'extérieur et j'étais un peu plus dedans. Et voilà, petite histoire pour
je crois que ce qui est important par rapport à la peinture, mais c'est la même relation avec l'écriture, justement, parce que l'écriture, dont on parle très peu, est très importante dans le travail aussi. Hein. C'est, donc, on regarde la peinture, on lit de la poésie, par exemple, on se promène, on marche dans des paysages, c'est tout le projet italien, tout le projet d'atelier. Ce qui m'intéresse, c'est que tout ça s'oublie, que tout ça soit absolument dissous dans le corps des acteurs et qu'il soit après porté par tout ça. Mais jamais on ne reconnaîtra tel tableau, jamais on entendra peut-être telle œuvre que l'on a beaucoup travaillé. À un moment, on avait eu l'envie, et on l'a fait, de travailler sur l'œuvre poétique d'André Dubouchet. Donc on a passé quelques semaines, mois, je ne sais plus exactement, à lire beaucoup, peut-être même toute l'œuvre Dubouchet, à voir ce que l'on fait toujours entre nous. Et puis, ça s'est arrêté là. Et je sais que ce que l'on a lu d'André Dubouchet est en nous. Ça agit en nous. Ça fait partie de notre expérience commune. Il y a évidemment l'expérience que chacun de nous fait dans sa vie solitaire, et puis il y a l'expérience très importante que l'on fait en tant que membre de l'atelier. C'est pourquoi le voyage italien était si important, c'est pourquoi on y retourne tous les étés en Italie, parce qu'on va toujours, encore l'été dernier, on est retourné à Arezzo et ailleurs, on va toujours revoir de la peinture, où on relie ensemble. Comme l'œuvre de Roux, je pense qu'on a lu 100 fois l'œuvre de Roux seul et ensemble, et on la lira encore. C'est comme des strates, c'est vraiment un travail géologique, c'est extrêmement profond, et on va chercher tout au fond ce qui va tout d'un coup réapparaître à la surface. En fait, la relation à la peinture, elle est un peu celle-ci. Roland, par exemple, Alexandre Roland est quelqu'un très important pour l'atelier, dont l'expression vient de se terminer, la galerie vieille du temple, on a vu plusieurs expositions, c'est un compagnonnage, mais jamais on ne le verra et jamais on ne le dira si c'est dans un lieu comme ça d'échange, mais c'est très très important. C'est pourquoi c'est très particulier cet atelier. Oui, il y a si peu d'acteurs, parce qu'on ne peut pas prendre les acteurs de l'extérieur et leur dire tiens, ben, viens, on fait un travail, c'est quand même pas mal, viens travailler avec nous. Ça serait très très compliqué. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont toujours que deux. C'est ouvert en même temps, mais c'est compliqué. Hein. Je fais une parenthèse, puisque, comme je l'ai déjà dit, je fais un travail pédagogique très important. Et il y a l'un des. Les activités de l'atelier et la formation, justement. On a décidé très récemment de faire un grand stage cet été en Italie, dans notre maison. Donc on va faire venir, enfin, en tout cas, où des gens s'inscriraient. Il y a des acteurs qui vont venir travailler, j'espère, avec nous cet été. C'est un grand événement, c'est une décision compliquée à prendre. Donc finalement, on a pris ensemble, on s'est dit, on va le faire. Et donc ça sera une occasion pour travailler 2 semaines avec des acteurs nouveaux. L'un de ces acteurs sera-t-il un jour maître de l'atelier mystère ? Peut-être, peut-être non. L'essentiel, c'est la permanence que l'on crée ensemble, mais une permanence qui est ouverte. Donc c'est un petit peu l'étrangeté de l'atelier qui semble à des esprits de chagrin toujours trop fermés, mais cet atelier est à la fois très fermé et très ouvert. C'est assez ambivalent.
Bon, alors, comme notre séance s'achève dans un quart d'heure, alors qu'on a l'impression qu'elle a à peine commencé, et donc on a tellement de choses à demander encore, même sur ce premier point, on va effleurer, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse de quelque façon y répondre, mais même si on n'y répond pas, c'est une façon d'apporter une pierre à ce qu'on essaie de bâtir ici. Alors, la question est à la fois vaste et un peu bête, hein. Mais je crois qu'il faut la poser dans. Enfin, il faut essayer de l'approcher alors, dans ce qu'elle a de plus comme ça massif et peut-être déplacé. Alors, moi je vois 2 façons. Une façon qui concerne les acteurs et une façon qui te concerne, Manuel. D'ailleurs, je vais t'adresser une question que, au fond, je voulais, mais je crois toi aussi, adresser à Thomas Richards et qu'en fait, on n'a pas pu adresser. Voilà, c'est ça. J'essaie de lui prendre 10 minutes avant parce qu'en fait, mais je sais, tu m'as dit que toi aussi, tu voulais, tu avais quelque chose à lui demander aussi sur ce point. Donc, c'est la même question, mais vue des 2 côtés. Alors, d'abord, bêtement, donc à l'intention des acteurs. Lorsque vous faites ce travail, y a-t-il chez vous, en dehors du fait que, après coup, bon, vous venez l'un et l'autre, et en particulier, Joseph, dans ce que tu as dit sur l'attention et sur le passage de la concentration à l'attention, qui était très, vraiment très intéressant et qui a beaucoup de résonance dans toutes sortes de pensées, vous connaissez, j'en suis sûr, ça s'entend. La question serait de savoir si lorsque vous travaillez, disons travailler, je ne sais pas si vous dites jouer, enfin, vous dites acteur, vous dites théâtre, bon, parce que tout le monde ne fait pas tout le temps, bien sûr.
Mais on ne dit pas jouer.
Oui, mais vous ne dites pas jouer. Bon, voilà.
Acteur et théâtre.
Donc, voilà, donc alors, lorsque vous travaillez, hein, on va dire ça comme ça, ce que vous faites, ce que vous faites, vous les acteurs, avant le moment où quelque chose va être dit, si ça se passe sous la forme du dispo, je ne sais pas, en tout cas vous allez avoir un écho de ce que vous avez fait dans la relation de travail que vous entretenez avec Emmanuel. Avant ce moment-là, c'est méthodologique, hein, c'est pas du tout pour la priver ou pour la refouler, c'est parce que c'est ce point auquel nous nous intéressons. Avant ce moment-là, est-ce qu'il y a ou pas une procédure d'évaluation ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une évaluation de ce que vous faites ? Alors de là, je lâche les mots, mais c'est aussi bien pour les raturer immédiatement, bien sûr, hein, de la validité, de la justesse, de la beauté, de la bonté de ce que vous faites. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a à un moment donné une épreuve de ça ? Est-ce que ça intervient, à votre avis, à un moment donné ou à un autre dans le jeu ? Ne serait-ce que parce que vous admettez l'idée de présenter et de présenter au public, et que dans le temps de la présentation, vous ne pouvez pas appeler Emmanuel pour savoir si on peut discuter 5 minutes, il y a bien un temps où vous êtes livré à la relation et qu'il faut bien qu'à un moment donné ou à un autre, ou pas. Vous pouvez dire non, pas du tout. Bon, c'est la première question que je vous adresse. Est-ce que ça existe, quelque chose comme ça ? Et si ça existe, comment ? Hein ? On posera dans un tout autre contexte la question, dans un contexte brechtien, on la posera à des acteurs qui ont des pratiques tout à fait différentes de la vôtre, mais je voudrais savoir si cette question a un sens ou pas, et laquelle. Et la deuxième question que je pose tout de suite, symétriquement, à Emmanuel, et qui est évidemment une très grosse question, un peu déplacée en un certain sens. On a l'impression, à vous entendre, qu'il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire, de justesse, de rigueur, de force, je ne sais pas quoi, de l'expérience qui est recherchée et peut-être atteinte, hein, par les acteurs. Alors comment fais-tu pour accepter d'être privé de cette expérience-là ? C'est-à-dire, comment fais-tu pour accepter de ne pas jouer ? Et là, de ne pas travailler en ce sens du travail. C'est-à-dire, comment... J'aurais pu poser, si j'avais connu, la même question à Grotowski, parce que c'est bien ça, au fond, le fond, quand on voit le Grotowski et son travail. Avec Thomas Richard, c'est beaucoup plus troublant, c'est pourquoi nous avions, toi et moi, et d'autres sans doute, on aurait voulu l'interroger là-dessus, parce qu'il a cette position, à ma connaissance, très rare dans l'histoire du théâtre du XXe siècle, hein, que Brecht, par exemple, n'avait pas. Hein, l'expérience de celui qui, à la fois, dirige le jeu, l'anime, le juge, l'évalue, le pilote, et en même temps l'éprouve dans une fonction presque centrale, puisqu'il n'est pas simplement, comme on a pu voir, un joueur parmi les joueurs, un doueur comme parmi les doueurs, mais il est quand même en position relativement centrale, y compris narrativement dans le dernier truc qu'ils nous ont montré. Donc voilà, les deux questions qui sont... On a trop peu de temps, hein, même pas pour y répondre, mais à peine pour les poser, et même le simple fait de les poser demanderait une élaboration, mais comme c'est notre objet, je me permets de vous les adresser.
Je commence alors. Moi, je sais que... Là, je parle vraiment en tant qu'acteur, et c'est tout, j'allais dire, et c'est déjà beaucoup. Moi, je sais que j'ai des indices. Des indices ou des choses qui me... Alors, dire lesquels, ça reste encore un autre problème. Mais il y a déjà des signes. Enfin, ça, c'est valable pour moi, on verra comment ça se passe après avec Joseph. Mais ça, c'est vraiment moi. J'ai quelques signes qui sont comme avant-coureurs d'un... C'est comme avant l'orage, quoi. On se dit, je sens quelque chose et je me dis... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se former. Je ne sais pas de quoi, c'est un état. Voilà, quelque chose de l'ordre de l'état. Et j'essaie de le laisser venir, justement. Et je sais qu'à un moment donné, j'essaie de toucher cet endroit où justement je ne suis plus en train de me demander c'est bien ou c'est mal. Et je pense que là, c'est le plus compliqué pour moi, c'est justement de ne plus être dans le jugement, au sens jugement de bien ou de mal, dans le jugement de on ne doit pas le faire, on doit le faire, jugement moral, moi je dirais, je n'ai pas la connaissance des mots. Enfin, je n'utilise pas la manière philosophique, c'est pas précis. Mais c'est pour ça que je parlais de cette histoire tout à l'heure avec la Marista, qui était aussi ça. C'est-à-dire tout d'un coup, j'oubliais le jugement cultureux, enfin, je suis assez joli, etc. Et c'est vraiment cet endroit où je pense qui est très compliqué à toucher, je pense, d'arriver à sortir de c'est bien, c'est pas bien. Ça veut dire comme essayer de... Parce que tout ça sont des sensations très physiques, donc très difficiles à expliquer, de... Oui, justement, quand c'est en vie, quand ça prend vie, comme on dit, ça prend feu, ça prend vie, tout d'un coup. C'est-à-dire que il y a comme intérieurement, dans tout le corps, le psychisme, des sortes de cloisonnements qui nous font réagir dans tel contexte de telle manière, dans tel contexte de telle autre, parce qu'on sait que, je sais pas, faire une chose pavée dans sa main, il y a des endroits où c'est pas possible, et il y a des endroits où c'est possible dans la vie. On le sait très bien, que ce soit ici, c'est pas possible, dans une relation sexuelle, on peut dire que ça peut arriver. Et peut-être le théâtre est l'endroit où moi je sens, ou en tout cas moi j'essaye de faire tomber le maximum de ces cloisonnements-là. C'est-à-dire que ça peut aller plus sublime ou plus trivial, mais ce ne sera jamais dit comme sublime ou trivial. Si je me le dis, c'est foutu. Si je me dis, je fais du sublime, ou attends, je vais faire un truc trivial, c'est fini. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette fluidité entre les états, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je ressens moi, c'est-à-dire que je suis en vie tout d'un coup, je remplis mon corps, enfin, c'est des choses que je me dis moi, ça. Je remplis mon corps, je suis debout en moi-même. Les sensations dans le travail sont très grisantes, c'est quand le corps se dresse, c'est qu'on se dit je suis debout, réellement debout. Et voilà, c'est simplement, moi je sais très bien, c'est pour ça que notre travail, on peut parler de sublime, de corps second, des choses comme ça, peut-être, mais je pense que les corps second, ils arrivent quand les choses concrètes sont remplies totalement. Totalement. Être vraiment debout. Être vraiment assis. Être vraiment présent à la lumière. Et c'est des choses, on peut dire, extrêmement simples. C'est pas des choses ésotériques ou métaphysiques au sens premier. C'est remplir ça. Manger un fruit, qu'est-ce que c'est ? Remplir vraiment ça. Quand le fruit est contre le corps et que le corps va l'ingérer avec son jus, sa matière. Voilà. Donc moi, je sais que c'est quand ça s'arrête de juger et quand je remplis, j'essaye en tout cas de remplir ces actes, ça arme la vie, quoi, ce que j'appelle le vivant.
Ce que je vais dire va aller tout à fait dans le même sens. Le théâtre d'Emmanuel, pour moi, c'est un théâtre du ravissement. Dans le sens où il s'agit d'appliquer une certaine part de volonté, une certaine part de jugement, sans doute. C'est pourquoi c'est très long, le processus de travail. J'ai rencontré Emmanuel en 1994. Ça s'est inventé ensemble. Et bien sûr, c'est son théâtre, mais... Année après année, il y a cette possibilité du ravissement, qui est venu assez vite, mais pas tout de suite. Et d'un autre côté, le théâtre d'Emmanuel est aussi le théâtre de la transgression, on va dire. Je rejoins un peu ce que dit Julien. Une forme de libération. Ce qui ferait autorité, si on peut employer ce mot affreux. N'est pas là où on l'attendrait tout autre. Et moi, quand je travaille, c'est surtout pas les évaluations ou le souvenir de ce qu'a pu dire Emmanuel qui me vient en tête. Donc ça compte, bien sûr, parce que Emmanuel nous signale, il n'intervient jamais pendant les, je sais pas, l'heure, les 2 heures ou les 3 heures d'improvisation, mais plus tard, après, on revient dessus, mais c'est pas en bien ou mal, ou beau ou laid qu'il intervient, c'est comme si on racontait à nouveau ça prend quasiment le même temps que l'improvisation, ce qui s'est passé sans tout décrire, mais et on se rend compte que là, ça y va, là, ça n'y va pas trop, et petit à petit, comme ça, c'est des mouvements qui se mettent en place, plus organiquement possible, comme disait Emmanuel. Donc pour moi, le théâtre d'Emmanuel, c'est ça, c'est ce théâtre du ravissement et le théâtre de la transgression, parce que c'est comme s'il s'agissait sans arrêt d'aller au-delà de quelque chose, au-delà même de ce que on est capable, où on est capable d'aller. ça a enfin un endroit, enfin un lieu dans le monde, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, qui excède un peu nos forces, hein, qui sont souvent si mal employées, hein, pour ça qu'on se fatigue tant, et qui là génèrent encore plus d'énergie, de vie, enfin, qui est courant de vie. Hein. Donc, le terme pureté, pour moi, ne va pas du tout, parce que il y a tout moment possibilité de transgresser, y compris même ce que nous-mêmes, on a mis en route.
Hein. Je crois qu'on arrive assez bien à le rôle que j'occupe. Comme on a très très peu de temps, je vais dire deux mots là-dessus.
Je veux juste dire une chose très importante, c'est que ce que moi j'ai dit et ce que Joseph a dit se fait sous le regard d'Emmanuel, et moi j'aimerais dire dans le regard d'Emmanuel. Oui. C'est simplement ça, et ça, c'est présent en nous. C'est très important. Voilà, c'est simplement c'est ça sous, dans le regard.
Oui, je crois que c'est ça le rôle qui est le mien. Parce que je ne suis ni acteur, et je ne veux aucunement l'être, ni spectateur témoin, et je ne veux pas l'être non plus. J'ai un rôle absolument unique. Il n'y a que moi qui puisse les regarder, tout le temps, du premier jour jusqu'au dernier. Et puis, à un moment, il y a d'autres gens qui vont regarder à côté de moi. Et comme les gens qui ont déjà vu notre travail de salle, je suis toujours présent parmi les spectateurs témoins. À côté devant, très visible, pas du tout caché. Donc Claude Régis est toujours présent, évidemment, comme metteur en scène sérieux, pourrait-on dire, à chacune des présentations de son travail, mais il est caché.
Vassiliev aussi.
Moi, je suis vraiment au milieu des gens. Je suis souvent au centre des spectateurs témoins, devant eux, avec eux, très 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 présent. Je les accueille, je les fais entrer dans l'espace du travail. Et je regarde avec eux, mais ils n'ont pas les mêmes regards, hein, puisque le regard qui est le mien est absolument unique. Et c'est très juste ce que dit Jonathan, je crois que c'est évidemment un théâtre du ravissement, c'est le centre du travail. Et moi, je ne cherche qu'une chose, c'est être ravi par eux, évidemment, c'est arraché à ce qui m'entrave, à ce qui me limite, à ce qui me mutile en permanence dans la vie quotidienne. Ce qui fait que sans ce travail, je ne peux pas vivre, ça n'aurait pas de sens, évidemment. Et c'est évidemment, Joseph l'a très bien dit, un travail de la transgression, c'est-à-dire que les catégories pures, impures, volent en éclats, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument pas de sens. C'est simplement essayer de chercher à rendre le plus vivant possible un acte. J'essaye de les aider et de nous aider à ouvrir cet espace où il n'y a plus de catégories, où il n'y a plus... justement le pur, l'impur, le bien, le mal,
la transgression.
Il n'y a même plus la transgression. C'est simplement être vivant. C'est pourquoi le mot jouer est définitivement banni de notre vocabulaire. Dans le petit papier que l'on a préparé, que l'on va vous donner, il y a à la fin, pour faire le lien avec la séance précédente, une citation très simple, magnifique de Rotowski, qui disait que peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, le seul lieu où l'on peut ne plus jouer est le théâtre. C'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est le premier mot, je crois, que je prononce quand j'ouvre l'atelier que je dirige à Compiègne chaque semestre. Et nous, c'est toujours présent, notre esprit. Hein. C'est enfin un lieu du laisser-être. On peut tout laisser, donc tout faire. Donc c'est un lieu qui espère, qui cherche à être un lieu d'une totale liberté. Mais tout ça, comme ils l'ont fort bien dit... très simple, très concret, très peu spectaculaire, finalement, très peu spectaculaire. C'est pourquoi les questions sur les objets, sur la pureté, sont déplacées, en fait. Ce sont inopérantes, on pourrait dire. Parce que ça n'est pas du tout la question, en fait. Pareil avec le son, finalement. On ne se dit pas, tiens, c'est trop pur, donc on va mettre un petit bruit de perceuse, ça va faire un peu impur. Ça ferait compte que c'est absurde. On essaie de laisser les choses advenir là où elles sont. Hein. Par exemple, quand je vois François, je me dis pas, ce gars-là, il est pur, il est impur. J'essaie de voir un homme. Voilà. Et j'aimerais que les acteurs avec lesquels je travaille soient le plus humain possible. C'est moi ce qui me... Comment pour dire, ce qui me ravit dans le christianisme. Hein.
C'est ce que j'aime, parce que j'aime être intermédiaire, c'est ce mystère-là qui me ravit. C'est-à-dire comment cet homme, comment un homme peut être en même temps homme et Dieu. C'est exactement ce qu'ils sont. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi on travaille sur la résurrection, parce qu'on est au cœur de ce qui est le mystère qui est le mien, de ce qui m'habite entièrement, en tant que faisant partie de cultures chrétiennes, j'entends. Bien sûr, ça se retrouvera dans beaucoup d'autres cultures, mais c'est la mienne. Donc, accidentellement, c'est la mienne. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein. Et ce que j'aime profondément, on parlait d'Emmaüs tout à l'heure, moi j'aime énormément cette scène, je trouve ça incroyable comme scène, de reconnaître le Christ parce qu'il fait crêler avec le pain. Mais là, on ne se dit pas, est-ce qu'il a une biscotte, ça serait mieux qu'il ait une biscotte, ça serait plus trivial, mais s'il avait du pain ni mille, ça serait mieux, il a du pain. C'est le geste qui va compter. C'est ça qui nous intéresse.
C'est la même histoire que les masques. Hein. Il n'est plus dans le littéral. Un corps ressuscité n'est plus littéral.
Mais un corps ressuscité est un corps. C'est ça qui m'intéresse. Moi.
Mais
c'est
ça qui met un corps d'un autre genre.
Bien sûr.
Dans ce que tu as dit, quand même, ça laisse complètement ouvert, en suspens, la question du rapport entre acteur et spectateur. Parce que tu as parlé, au fond, le personnage qui m'intéresse dans toute cette séance, c'est mon copain qui a dit que ce passerait. Il faut que c'est lui qui m'intéresse.
Il est intéressant pour moi parce qu'on n'a pas réussi à. Je vais voir quelque chose en fait. Parce que je crois que le rôle qui est le mien, je pensais que c'était la question de Denis, en fait, le rôle qui est le mien, c'est un texte que j'avais l'intention de lire, mais que j'ai décidé de ne pas lire finalement au début de la séance, qui s'appelle Sur la frontière. C'est-à-dire, c'est d'amener les gens vraiment au bord, tout près des acteurs. C'est ça, c'est de les amener tout près, c'est de vous amener tout près des acteurs. Et de vous ouvrir cet espace où on va être rendu peut-être plus vivant par ce qui va se manifester là. Parce que moi, je ressens ça comme ça, dans la vie quotidienne, je me sens si peu vivant, si mutilé, si entravé. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on respirait autrement, c'est comme si on voyait autrement. On le voit à chaque fois, peut-être que mes élèves pourraient le dire, ou en témoigner tout aussi bien que nous, à chaque fois qu'on sort d'une séance de travail, on voit très différemment. D'ailleurs, Joseph fait parfois de la photographie, parce qu'il est photographe aussi en sortant de séance de travail, et il va essayer de fixer sur la pellicule l'ouverture de son regard. Il ne photographie pas que dans ces moments-là, mais aussi. Hein. Et nous, quand on va, par exemple, dans le jardin en sortant de la maison, quand on va dans les oliviers même ou les cafés du village, on se rend bien compte qu'on est exactement. On est plus ouvert, on voit autrement, on ressent autrement, on sent autrement. Pardon, moi, je sens les odeurs comme jamais quand je travaille, par exemple. Il y a beaucoup d'odeurs, évidemment, en Italie, au mois de juillet, où il y a de l'odeur. Hein. Mais je les sens beaucoup plus dans le travail que dans la vie quotidienne. Et puis, après quelques moments, quand on travaille, donc on travaille pendant 5 heures, on arrête, on descend au premier étage, on va dans la cuisine, on va sur la terrasse, on va dans la forêt, puis après on va manger au village. Et c'est comme si lentement, les choses se refermaient lentement, et heureusement qu'elles vont s'ouvrir le lendemain. Sans quoi on ne pourrait pas vivre, en fait. Et c'est ça que l'on voudrait, c'est cette utopie, disons, c'est ça que l'on voudrait donner aux spectateurs témoins, c'est de leur faire partager ces moments-là, ces moments d'ouverture, où si en eux, quelque chose en eux va se passer. Ils ne sont pas du tout, comme Julien racontait avec un certain humour par rapport à la maïsade de Couture, ils ne sont pas dans le regard, justement, critique ou culturel, en disant c'est bien, c'est pas bien, tiens, la mise en scène de Chéreau sur fait, c'est vraiment intéressant, ce qui fait différemment de machin, moi je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup que les gens, si les gens me disaient, ça m'a rendu un peu plus vivant, là je serais heureux. Ce que m'a dit ce monsieur qui n'est pas mon copain, ça m'a rendu très mal, ça m'a rendu très malheureux. Ça m'a rendu, je précise bien que j'aime beaucoup, non. Ça m'a rendu très malheureux parce que j'avais échoué, j'avais pas réussi à l'arracher à son conditionnement d'homme de théâtre. Il avait vu ça comme du théâtre. Et il nous a fait des réflexions, comment dire, complètement idiotes, d'homme de théâtre. Il voyait ça en homme de théâtre, en metteur en scène. Alors, sûr que si on voit ça en metteur en scène, c'est complètement loupé, parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, c'est pas vrai. C'est comme si on voyait un arbre de Hollande, on regardait un arbre de Hollande si simple, ou une de ses vies silencieuses, et qu'on espérait voir une peinture maniériste du, je sais pas, qui avec 10 milliards de détails qui nous réjouirait. On pourrait se dire, face à
une pauvre cruche de Hollande, il n'y a pas grand chose à voir. C'est sûr que chez nous, il n'y a rien à voir. C'est ça qui nous intéresse. C'est quelque chose de, qui n'est pas de ce, de ce regard-là. Joseph a très bien dit, c'est rendre les gens attentifs. Le spectateur témoin, je l'espère, sinon j'arrêterai tout de suite, j'espère que quand vous viendrez un jour voir le travail que l'on fait, vous serez rendu attentif. C'est-à-dire qu'il se paraît exactement ce qu'a dit Joseph pour vous. C'est pareil. Bien sûr, vous n'êtes pas acteur, et vous n'allez pas tout d'un coup vous mettre à vous lever et aller toucher l'acteur Julien, mais vous allez être physiquement, psychiquement ouvert. Sinon, c'est complètement raté, là, c'est sûr. Sinon, ça ne marche pas.
Malheureusement,
on va se
séparer. Plusieurs choses. Avant qu'on se sépare, si vous le voulez bien. Une toute petite chose qui est que nous on a un travail qui est dans une certaine continuité. Si vous avez besoin d'informations sur ce travail pour votre gouverne, il y a Julien Abriel qui est là, c'est pas le même Julien, mais ils sont à côté, et qui est le coordinateur de ce travail, et vous pouvez lui vous adresser à lui. Et puis l'essentiel qui est je voudrais remercier nos amis du jour en leur disant que on était content de les rencontrer, et puis surtout vous, en nous excusant en quelque sorte d'être si bref et d'une coupure aussi aiguë, quoi. Mais merci beaucoup, et on espère en savoir plus et en voir plus ailleurs.
Merci beaucoup. Après, juste un dernier mot, on serait très heureux parce que tous les gens qui sont ici présents ne sont pas forcément sur la liste de Julien. Ce serait très bien si vous voulez, alors c'est que vous nous laissiez votre adresse email, voilà, pour qu'on puisse vous tenir au courant des moments où on ferait des présentations du travail, et comme ça nous intéresserait pour voir si ce que je dis a une réalité. Laissez-nous votre, je vais vous donner un papier.